Morley poussa les gaz au maximum et l'avion accéléra rapidement jusqu'à ce que ses roues quittent le sol avant de se replier dans les habitacles sous les ailes. Le capitaine Morley mit le cap sur le nord sous les yeux de son commandant et dans les lueurs déclinantes du jour. Il monta progressivement à 5 000 mètres tout en laissant libre cours à ses sensations. Des sensations de plaisir, la réponse tout en fluidité du manche, les vibrations régulières du moteur, le chauffage qu'il venait de mettre en marche. Sa radio fonctionnait bien mieux que sur le Morane. Il parla dans son micro. Palier à 5 000, pas de surchauffe du radiateur, vitesse nominale à vous. Compris numéro 33, je coupe. Il avançait à plus de 500 km/h, comme son cadran le lui annonçait sans ambiguïté. C'était donc vrai, le 520 dépassait les 500. C'est ainsi qu'en 3 quarts d'heure, il survolait Bochum, son objectif. Il descendit à 400 mètres grâce aux lumières autour de la gare. Il largua ses tracts. Proche de la gare se trouvait une des plus grosses casernes de la région. Mais aucun appareil ennemi ne se manifesta. Il reprit de l'altitude dans la nuit. Dans un vol de nuit, que voit-on à travers le cockpit? On voit la lune et les étoiles, s'il n'y a pas de nuages, comme cette nuit. Et en bas, on voit la lumière des agglomérations. C'est une façon de se repérer. Les lumières d'une ville se présentent, la plupart du temps, sous forme de taches plus ou moins arrondies, parfois allongées. Mais ce que Morley était en train d'observer à présent était tellement allongé que ce ne pouvait pas être une ville. Cela ressemblait à un serpent lumineux dans la campagne. Il descendit pour mieux se rendre compte, et il n'avait pas fini de longer le serpent que des BF-109 vinrent l'attaquer. Il vira rapidement et prit de l'altitude. Les Messerschmitt le mitraillaient. Il esquiva, grâce à l'extraordinaire maniabilité de son devoitine, il riposta même en pleine nuit. Puis, grâce à un piqué qui lui fit atteindre sa vitesse maximale, il s'évanouit dans le noir. Il appela sa base. « Je viens de repérer une concentration exceptionnelle de véhicules, un embouteillage. Quelle longueur? Plus de 100 km. Vous êtes sûr? Certain? Position? Frontière luxembourgeoise, je vous envoie les coordonnées. Direction? Les Ardennes, à vue de nez. Et le 520? Le radiateur chauffe, j'ai ralenti. Revenez-nous entier, capitaine. » Il vola encore une bonne demi-heure avec des sensations nouvelles dues aux pensées terriblement inquiétantes qui l'envahissaient peu à peu. Inquiétantes parce qu'il ne comprenait que trop bien la signification de ce qu'il venait de voir. Il signala son approche de la base et les balises lumineuses s'allumèrent le long de la piste. Il tint une trajectoire élégante avant de se poser, 2 virages coulés et un mouvement vers le sol tout en amortissement contrôlé. La barbe qu'il attendait sur le tarmac murmurait « Pas de doute, il a signé son atterrissage, c'est bien lui ». L'avion arriva devant le hangar. Morley avait déjà ouvert le cockpit et l'hélice tournait encore qu'il descendait l'escabeau avancé par son mécanicien. « Il y a du grabuge, mon capitaine ?»« Non, mais ça ne va pas tarder. Tu es au courant ?» Tout le monde en parle ici, personne ne dort. Le commandant vous attend. Le capitaine se rendit immédiatement chez le colonel. Si l'on voulait personnifier l'anxiété avec un grand A sous les traits d'un officier supérieur, à l'aube du 8 mai 1940, il suffisait de prendre le chef de la base aérienne de Metz. Il fumait, comme la plupart des hommes, et l'odeur de son bureau témoignait de la multitude de cigarettes déjà consommées. Il était debout et Morley se demanda depuis combien de temps il tournait en rond. Son intestin ne devait pas être en meilleur état. « Rompez, capitaine, on va parler entre hommes. » Le pilote accepta une cigarette pour manifester sa solidarité. Il me refuse une reconnaissance. Le grand quartier général. Alors des bombardiers, vous pensez? Sapristi, mais j'ai vu un embouteillage de plusieurs kilomètres. Je leur ai dit. J'ai été attaqué par des 109, c'est bien la preuve qu'ils ne voulaient pas que je sois là. Je sais, je leur ai tout dit. Pardonnez-moi, mon commandant, mais depuis que vous leur avez transmis le renseignement, vous n'avez reçu aucun ordre? C'est exactement ce qu'il s'est passé, Morlaix. C'est-à-dire rien du tout. Ils s'assirent simultanément, leurs épaules s'affaissèrent. Derrière le colonel, une carte de grande dimension représentait la région. Sur la frontière nord-est du Luxembourg, des punaises à tête verte avaient été plantées en grand nombre et quelqu'un avait marqué d'une flèche verte incurvée la direction des Ardennes, avec un gros point d'interrogation au-dessus.